Vous allez écouter une conférence atelier sur les secteurs à cordes numéro 2, opus 36 en sol majeur de Johannes Brahms. Une présentation passionnante de Jean-Guillaume Queyras, suivi un enregistrement du même œuvre par les musiciens des Stuttgarter Solisten. Je vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour, ben je propose qu'on commence. Hein? Donc, alors, d'abord, petite explication sur cette conférence. Donc, elle va être intime, elle va être minimaliste. On est quasiment en famille. Donc, je m'explique. Au départ, l'idée, c'était évidemment d'avoir le sextuor, nos interprètes du sextuor qui vont jouer demain soir avec nous ici sur la scène. Et jusqu'à hier, c'était ce qu'on pensait faire. Et j'avais préparé une petite liste d'exemples, voilà, pour entendre le contrepoint d'un instrument à l'autre, etc. Comment ça circule, toute cette extraordinaire construction basse. Et les festivals sont les festivals, et quand c'est comme les histoires des répétitions publiques, où tout d'un coup, la veille au soir, on se rend compte que, ah oui, non, mais un tel a besoin de se reposer, ou de faire ceci, etc. Bon, bref, il y a plein de contingences de dernière minute, et là, on s'est rendu compte qu'on n'allait pas y arriver ce matin, c'est-à-dire qu'il y a d'autres pièces qui sont répétées, il y a notamment le Valkyrs qui a encore besoin, qui est en fait très complexe, et ils ont besoin de plus de temps de répétition, pas de disponibilité des musiciens du Brahms ce matin. Donc, plutôt que d'annuler, de faire chou blanc, j'ai dit que je partagerais quand même avec vous ma passion extraordinaire pour cette œuvre, avec les moyens du bord, avec de temps en temps des petits extraits d'enregistrements en streaming, avec cette petite enceinte, là, vous voyez, là, comme un... Et puis, pour ce qui est des exemples un peu plus techniques, si je puis dire, je donnerai quelques exemples au violoncelle. Voilà. Donc, moi, ce sextuor, j'ai eu la chance de le découvrir en tant qu'interprète, c'est-à-dire de jouer pour la première fois, au Festival de Marlborough. Le Festival de Marlborough, c'est un grand festival de musique de chambre aux États-Unis, dans le Vermont, qui est un festival, c'est l'université d'été du monde musical new-yorkais, notamment, moi c'est comme ça que je le vois dans son identité, un monde musical new-yorkais qui incarne, plus que tout autre lieu aux États-Unis, l'émigration juive, de l'époque des années, évidemment, 30 et 40. Déjà avant, mais notamment, évidemment, il y a eu une grosse arrivée de Vienne, d'Allemagne, à cause du nazisme, évidemment. Et tous ces gens-là sont beaucoup sont venus s'installer à New York et ont créé une espèce de noyau comme ça. Et c'est comme ça que moi, quand je suis allé étudier à New York dans les années 80, ben, j'ai eu la chance d'avoir des cours de musique de chambre régulièrement avec Félix Galimir. Je cite un exemple parce que Félix Galimir, il avait, dans les années 30 à Vienne, un quatuor avec ses trois sœurs. Ils étaient quatre frères et sœurs Galimir. Et c'est eux qui ont créé la suite lyrique d'Albanberg, qui l'ont travaillé avec lui, qui ont joué la première et qui l'ont enregistré. Il y a un enregistrement de ça. Et ce même Félix Galimir était encore à New York et il donnait des cours quand j'y étais dans les années 87-90, quand je suis arrivé là-bas. Et c'était extraordinaire de profiter de ça. Et Marlborough, c'était un petit peu un concentré de ça, de cet héritage, de cette tradition de la musique de chambre austro-germano-américaine, voilà, à travers les tragédies de l'histoire. Voilà. Et une des choses de Marlborough, et après je vous rassure, j'en viens à Brahms, c'est que un des aspects très forts, c'est qu'il y a ce que je trouve aussi très hérité de cet esprit juif, très, très kibbutz. C'est vraiment une vie en communauté pendant 7 semaines. Donc déjà, ils ont des règles très strictes, si vous voulez venir au Festival de Marlborough. Bon, déjà, en tant qu'étudiant, on auditionne, etc. Mais après, la règle, c'est qu'il faut être là pendant 7 semaines. Vous n'êtes pas libre pendant une semaine à cause de ça, vous ne pouvez pas venir. Tout le monde doit venir 7 semaines. Et pendant 7 semaines, on va répéter encore et encore et encore ces œuvres de musique de chambre, et on va plonger dedans et on va aller tout en profondeur. Et c'est comme ça que j'ai répété ce sextuor de Brahms très 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 en profondeur pendant 6 semaines avant de le jouer en concert là-bas. Et c'était une expérience extraordinaire. L'autre jour, quand on a évoqué, quand il y a eu la présentation du programme, pour ceux d'entre vous qui étaient là, j'ai parlé de ce sextuor de Brahms rapidement, et Alexis a tout de suite dit « Ah, c'est fou, en entendant le premier mouvement qui a été joué à la journée continue, il dit « On a l'impression d'entendre la symphonie de Brahms manquante. » C'est fou comme c'est symphonique. Et donc, c'est effectivement un précurseur, puisque là, on parle d'un opus 36. On a l'impression que c'est comme si Brahms faisait une première tentative d'écriture, de vision symphonique. Et je réfléchissais depuis qu'il a dit ça, je trouvais ça intéressant. Et je me disais, quelle est la différence et pourquoi on ressent plus ça qu'avec le premier sextuor, qui est le plus connu, que vous connaissez certainement, qui a tous ces thèmes, il est extrêmement joué parce que, en fait, le premier sextuor, chacun des thèmes, c'est une chanson. C'est une chanson que vous allez ensuite vouloir chanter sous la douche ou avec vos amis qui vous entraîne. Tous les thèmes, je vous en jouer quelques-uns, mais que vous connaissez certainement très bien. Donc le premier mouvement. Déjà, ça, c'est un thème très, très, très lyrique, très chanté. Le deuxième thème est aussi... Donc, tous ces thèmes, c'est le fait que les gens ont envie de... Hein, et vous connaissez tous le thème du deuxième mouvement, très dramatique. Le final, après je m'arrête. Donc chacun de ces thèmes est une mélodie très entraînante. La raison pour laquelle j'insiste là-dessus, c'est que dans le sextuor qui nous intéresse aujourd'hui, on a beaucoup moins cet aspect-là. C'est-à-dire, il y a évidemment des thèmes magnifiques dont Brahms a le secret, mais l'essentiel, la base, le début de ce sextuor, ce n'est pas un thème comme ça, c'est, j'ai envie de dire, plus beethovenien et plus justement la démarche d'un compositeur qui va plutôt que simplement nous prendre dans les bras et nous dire des thèmes magnifiques qui nous envoûtent, il va nous emmener dans un projet plus philosophique, il va nous emmener plus loin, parce que notamment le début de l'œuvre est plutôt comme une question, comme une énigme, comme quelque chose d'un objet qu'on n'arrive pas tout de suite à identifier. Et ensuite, il va y avoir un travail sur cet objet tout au long de l'œuvre. Et tout ça, ça va nous amener justement à quelque chose de plus, qui est plus de l'ordre des questionnements sur la vie, etc., qui finalement, souvent, enfin en tout cas, c'est très 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 beethovenien. Je vais donner quelques exemples. Beethoven, évidemment, passait son temps à travailler sur des motifs très minimalistes, qui n'étaient même pas des thèmes, en fait. Hein. Bon, les exemples les plus connus... C'est pas un thème, c'est un objet, c'est quelque chose sur lequel on commence à travailler. Même la sonate la plus mélodique, entre guillemets, de Beethoven pour violoncelle et piano, c'est un thème très très beau, mais qui commence de manière énigmatique, le violoncelle tout seul, pas harmonisé et pas vraiment harmonisable, et qui commence par une ouverture de quinte. Ce n'est pas un thème qui se termine, il se termine sur une question. On a fait une espèce de petite modulation, je deviens un petit peu technique, mais vers mi majeur. Et puis à partir de là, Beethoven, il va commencer à travailler, à nous emmener dans des réflexions, dans un, tout au long de l'œuvre. Et ce que fait toujours Beethoven, très souvent, c'est qu'après, à la fin, il va y avoir, on va arriver en fin de mouvement, et il va y avoir, entre guillemets, une réponse à cette énigme posée au début. Dans ce sextuor, donc, on a un peu cette démarche-là. Alors, d'abord, parce qu'on ne commence pas par le thème avant d'en parler, on a deux mesures de ce qui semble être un accompagnement un peu bizarre, et en tout cas, enfin, on ne sait pas trop ce que c'est l'alto qui commence tout seul.
Qui fait ça pendant...
Je n'ai pas compté, mais on doit être dans les 30-40 mesures. C'est deux notes, comme ça. Il demande à l'altiste de faire ça sur deux cordes.
C'est-à-dire non pas... Ça fait...
Je trouve que c'est presque comme un pulsar ou quelque chose, non, qui arriverait de l'univers et on ne sait pas. Est-ce que c'est les extraterrestres qui nous envoient des signes? Est-ce que c'est une étoile naine qui est en train d'envoyer des signes? Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment... Ensuite apparaît le thème. Or, ce thème, vous allez voir, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on chanterait facilement sous la douche. Et ce thème, en fait, il a quelque chose aussi de très pur en soi, c'est-à-dire, et de très évident, enfin, comment dire, on voit que Brahms s'est vraiment creusé la tête, c'est pas une mélodie qui est sortie de lui comme ça, c'est il a pris un objet sur lequel il allait pouvoir travailler de manière très diverse et très intéressante. Donc on a en fait deux sauts de quinte à un demi-ton d'intervalle, c'est-à-dire qu'on... Donc,
c'est embêtant que je puisse pas parler dans le micro, mais vous m'entendez comme ça, hein? Bon, ça va. Donc, une quinte. Donc, la quinte, c'est vraiment comme la colonne de la musique. C'est l'intervalle premier. Ensuite, un deuxième saut de quinte, une demi-ton dessus. Et on a déjà...
Ça aussi, c'est troublant pour un thème qui ouvre une œuvre. C'est-à-dire qu'on est en sol majeur.
Et au début. Et tout de suite, dès la troisième mesure du thème, on a cet accord qu'on pourrait qualifier de napolitain, c'est-à-dire une sorte de modulation. On est installé dans un mi bémol majeur. Trouve notre sol majeur. Et il va y avoir ce jeu comme ça sur le majeur mineur tout au long de l'œuvre. Alors, ce qui est formidable aussi, le génie de ce motif, c'est qu'il peut l'utiliser quand on a deux notes comme ça qui sont en batterie. Il peut l'utiliser quand il a un accord de sol, c'est-à-dire sol. Nous, c'est un sol qui fait partie de l'accord qui est ornementé, c'est-à-dire que et ensuite quand on arrive sur la dominante, on entend la note qu'on écoutera inconsciemment, c'est le fa dièse. Donc autrement dit, cette espèce de petit battement de note, il peut se glisser de manière indistincte dans une harmonie et dans l'autre, et il va faire le lien comme ça. Donc il est toujours là, et on va pouvoir changer d'accord, on va pouvoir faire nos promenades harmoniques, et on a quand même cette batterie qui est absolument imperturbable. Et ce côté imperturbable, justement, ce motif qui est là, on appelle ça une pédale, hein, comme Bach adorait les pédales, Brahms adorait les pédales, c'est-à-dire d'installer une note qui s'installe dans la durée. Et tout de suite, ça donne quelque chose de noble et qui a une vision comme ça lointaine. Mais c'est une pédale, un petit peu un subterfuge de pédale, puisque ce battement entre ces deux notes fait que ce motif en étant toujours là, il peut traverser toutes les harmonies comme ça. Et donc, on a ce, tout de suite, on s'installe dans ce, quelque chose de lancinant comme ça, grâce à ce motif. Vous avez sans doute remarqué déjà qu'on est dans un motif... Donc, on est dans un rythme ternaire. Et le rythme ternaire, Brahms les adore. Il a, c'est son côté que moi je vois comme viennois, c'est-à-dire qu'il est un amour pour ce qu'il a à trois et qui tout de suite donne un balancement comme ça, quelque chose qui tourne. Le final va être aussi en rythme ternaire. Je regarde ce que je veux dire sur ce début avant de passer à la suite. Voilà, donc le grand truc à retenir là-dessus, c'est que on a l'économie de moyens, pour résumer encore une fois ce truc. L'économie de moyens, si je prends un matériau qui est pas trop expressif et qui est en fait un peu pas identifié, j'aurai plus la possibilité en tant que compositeur de construire quelque chose de plus profond quelque part. Alors, est-ce que vous avez besoin, avant qu'on continue, avant que je passe à la suite, d'écouter ce que vous voulez écouter? J'ai trouvé un enregistrement que je trouve pas extraordinaire. Je pense que la version que vous entendrez demain soir en rencontre musicale sera meilleure, en toute modestie. Mais juste que vous rentriez un peu dans la pièce avec le tout. Alors là, ce qui est intéressant, on est au début de la pièce, une harmonie qui n'a rien à voir avec l'autre. Il nous a emmené en mi majeur. Et on est de nouveau sur note dominante. Pas de rien. Le violon reprend. Et maintenant, le violon ornemente sur notre motif de base. Qu'est-ce que j'aime cette musique, c'est dingue. Oh, c'est trop beau. C'est trop incroyable. Alors, il va garder tout au long de ce mouvement les croches. C'est-à-dire, quelque part, finalement, on pourrait presque dire que la pédale, ce qui va tenir le mouvement d'un bout à l'autre, c'est les croches. Il y a un motif de transition vers le deuxième thème, c'est le violoncelle qui l'expose. Il aurait pu avec toujours divisé en croches. Ensuite, quand arrive le deuxième thème à proprement parler, qui lui, alors, là quand même, il nous donne... Un bon, il est là, il dit, bon, allez, je sais que vous l'attendiez, je vous donne un bon thème brahmsien. Hein, celui que vous allez chanter tous ensemble après, ça prend derrière. Hein. Et notez bien d'ailleurs comment il commence ce thème. Chez Brahms, très très fréquent, vous vous souvenez du deuxième thème dans l'autre sextuor. C'est son grand amour, ça c'est quand il nous fait une grande déclaration d'amour, Brahms. Eh bien, ce thème, comment est-ce qu'il est accompagné à l'alto? Les croches sont là tout le temps. Et vous savez tous, puisque vous êtes tellement passé de musique, que c'est ce qu'on appelle une forme sonate classique. Donc on a notre premier thème, notre deuxième thème, qu'on va répéter. Et ensuite on arrive dans ce qu'on appelle le développement. Et le développement, c'est le moment où le compositeur va travailler sur le matériau et nous emmener dans des endroits un peu insolites. Eh bien, le développement ici, qui est substantiel, qui est vraiment assez, assez important, ça va être uniquement, il ne va pas du tout donner d'attention au deuxième thème, alors que normalement, le compositeur, il peut travailler sur tout ça. Là, ça va être Il va encore pousser. Ça va être que les... Et les choses vont passer comme ça d'un instrument à l'autre. On se dit, mais où est-ce qu'il va? On va nulle part. On est dans une espèce de flottement. On est un petit peu en apesanteur. C'est le... Comment s'appelait ce film-là, vous savez, là, avec, où ils sont dans les... Et extraordinaire. Il crée, et c'est que ça. C'est que le motif... Et le... Tous ces motifs comme ça, en quarte et en quinte. Voilà, ça c'était notre premier mouvement, qui est absolument divin, comme vous le voyez. Alors, maintenant, on va passer au, si j'y arrive, au scherzo. Et le scherzo, c'est, je vais peut-être le mieux, si je vous fais d'abord cette fois-ci, je vous fais écouter un petit peu comme ça, l'enregistrement. Tellement viennois. Eh bien, l'accompagnement. Je ne sais pas si vous avez entendu, Pete. Que des quartes et des quintes, qui étaient notre matériau principal du premier mouvement sur lequel il a travaillé. Parce qu'évidemment, quand on compose une symphonie ou une œuvre ambitieuse comme ça, on veut qu'il y ait une continuité. On est dans un monde pendant... toute l'œuvre. Quelque chose aussi qui est très brahmsien, peut-être je continue où on était arrivé, juste où on est arrivé, vous allez entendre, un espèce de thème, un peu comme une fugue, c'est-à-dire en fait une ligne jouée à l'unisson comme ça, et d'abord pas harmonisée, et ensuite il va rajouter des choses dessus. Les cartes, toujours les cartes. Donc un peu comme un... non, pas un cantique, comme on dit, mais je trouve qu'il y a un côté un peu dans ce... Comme si on récitait son chapelet, un peu. Voilà, ça c'était pour ce mouvement-là. Comme c'est un scherzo, il y a toujours une partie centrale qui est très différente. Alors là, c'est vraiment... une espèce de... Il se lâche, c'est le moment où on se lâche. Là. C'est une chanson à boire, quasiment, on se croirait sur le...
Excusez-moi, ça, c'est une excuse du massacre, hein, de couper comme ça. Et je vais vous montrer un exemple.
Donc là, c'est vraiment la danse au village. Hein. Alors, le mouvement lent est extraordinaire, immense chef-d'œuvre. Et c'est un mouvement de variation. Et c'est vraiment fantastique. Et qu'est-ce qu'on a? Là aussi, il commence de manière très économe, que les trois voix aiguës. Et je vous le donne en mille, le thème est évidemment très lié à notre thème du premier mouvement. Vous vous souvenez qu'un... Et là, qu'est-ce qu'on a? On a carte. Et en dessous, il fait travailler le deuxième violon et le premier alto ensemble, entrelacés l'un à l'autre, dans ce qui va créer quelque chose des chromatismes descendants, c'est-à-dire le deuxième violon joue un... Mmh. l'alto ornemente ça en triolet. Et c'est pendant que le violon joue, l'alto a joué. Et donc ils vont comme ça s'entrelacer. Il y aura toujours, c'est non seulement la tension du chromatisme qui en soi est quelque chose qui crée de la tension, mais il y a en plus une voix avec l'autre qui crée une double tension, si je puis dire. Je donne un petit peu le début ici. Beau demain soir. Et on va se lancer dans les variations. Première variation extraordinaire. Le premier violon. Ah oui, donc je ne peux pas chercher les variations comme ça va pas être facile. Mais le premier violon prend la ligne chromatique, vous vous souvenez. Donc c'est vraiment du contrepoint. Hein. C'est comme une fugue, vous pouvez inverser les voix comme ça. Donc maintenant, la voix qui était en dessous, qui était le deuxième violon, c'est le. Ça va être au premier violon dans une longue ligne. Ça, c'est le premier violon qui joue ça. En octave d'ailleurs avec le premier alto. Et ce qui était le thème tout à l'heure, eh bien, est dans ce... on a l'impression maintenant que c'est l'accompagnement. Et c'est en pids au violoncelle et au deuxième alto. Et ça donne ce côté, mais totalement, on est dans, je ne sais pas, un paysage lunaire ou quelque chose, très, très, très incroyablement transparent. Et il ajoute juste à ça le deuxième violoncelle qui... La deuxième, du coup, va être au contraire très expressive. Il va y avoir une réponse entre le violoncelle 2 qui est tout seul. Qui ornemente. Et ça, si vous vous souvenez, c'est d'une part ce qu'on avait... Ça ressemble vraiment à ce qui était l'accompagnement dans notre thème. Et... on pourrait dire que ça nous rappelle quand même. Voilà. Et tous les autres instruments lui répondent comme ça en canon. Et ça donne quelque chose de très, très parlant et très, très expressif. Ensuite, on part complètement vers autre chose. Le deuxième violoncelle se lance comme un Don Quichotte dans un espèce de saut d'octave. Et il va y avoir comme ça des entrées en canon. Ça va s'accumuler et donner quelque chose comme une fanfare. Et ça, c'est peut-être ma petite interprétation à moi. Mais je pense que le saut d'octave comme ça maintenant, c'est quand même... ce dans quoi notre thème, depuis le début, dans le premier mouvement, dans ce mouvement-là, finalement, qu'est-ce qu'on avait ? On avait presque toujours un saut d'octave divisé, en tout cas dans ce mouvement-là. C'est une octave divisée en deux quartes. Et là, maintenant, on tombe. On fait le chemin inverse, on fait d'abord saut d'octave, et ensuite on descend. Ah, et alors forcément, on est donc là, arrive une. Après cette variation, après tout ce début, arrive la variation en majeur. Et là, c'est aussi. Il n'y a pas plus Brahms que ça, c'est les deux altos qui se lancent. Ça, il faudrait que j'essaie de le trouver sur l'enregistrement. Qui sont tous les deux, ils vont faire des guirlandes de double croche comme ça. comme deux corps qui font vraiment de l'harmonie et célèbrent le mi majeur. Et évidemment, là, il faudrait qu'on soit deux. La deuxième voix en dessous. Et ça, c'est à la base presque de toutes les œuvres de Bach. C'est une faute. J'aurais aimé avoir un petit piano pour vous le montrer, mais. Donc, c'est les deux voix qui célèbrent un accord comme ça, comme deux corps, les instruments de COR, sans P. Voilà, deux voix en harmonie. Voilà, et on termine sur cette magnifique couleur majeure. Le final, on parlait tout à l'heure des rythmes ternaires, donc là, il s'offre un double ternaire, c'est-à-dire un rythme qui est à 9-8, c'est-à-dire non seulement 1-2-3, mais 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Ça va être notre thème qui va être exposé un petit peu comme au départ, ça commence tout de suite avec un travail, ce qu'on appelle d'imitation, c'est-à-dire le violon joue ça, hop, une mesure après, les violoncelles rentrent, et comme une deuxième voix de fugue. Mais en fait, ça ne va pas vraiment être une fugue. C'est une introduction qui prétend comme ça, qui nous fait croire qu'il va y avoir un travail de fugue. Mais en fait, c'est juste une petite introduction. Avant que les violoncelles... Donc là, on a quand même une chanson, une mélodie, un thème dont on parlait tout à l'heure. Et le deuxième thème, c'est une célébration. Vous avez vu qu'on a commencé avec des quintes, on finira avec des quintes. D'ailleurs, le début de ce mouvement-là, je vous ai vu. Donc une quarte. De nouveau la quarte. Et bien, le deuxième thème, ça va être une grande célébration des quintes avec laquelle on avait ouvert l'œuvre. Là, ça va être des quintes, mais par en haut toujours. D'ailleurs, les violoncellistes détestent. C'est un thème qui est présenté au violoncelle et on l'aime pas trop parce que nous, c'est un petit détail technique, mais on n'aime pas les quintes parce qu'il faut. Il faut passer d'une corde à l'autre. C'est pas le thème le plus commode ou le plus organique au violoncelle qui nous est composé. Mais néanmoins, il est très beau quand même, et très, très, assez inhabituel, mais ça fait très aussi fait au village. C'est un côté presque, entre guillemets, primitif. Justement. Vous savez qu'en musique classique, une des premières choses que vous apprenez à la leçon numéro 1 d'harmonie, si vous avez, c'est les quintes parallèles sont interdites. Donc, vous n'avez pas le droit de... Et là, ce thème, il est composé comme ça. Évidemment, il fait des petits arrangements, c'est-à-dire qu'au moment où on joue la note de quinte, il y a une autre harmonie qui passe, etc. Mais ça a quand même comme ça quelque chose d'extrêmement primitif. Peut-être, je vous fais quand même entendre un petit peu de ce mouvement. Vous sachiez de quoi on parle. Travailler en canon, de nouveau l'imitation. De nouveau notre thème. Canon, imitation. transition. Et deuxième thème, violoncelle. Voilà. Avec les moyens du bord, je vous ai exposé un petit peu quelques-uns des éléments de cette composition, vraiment de ce chef-d'œuvre, de cette symphonie, comme disait Alexis. Voilà. Est-ce qu'il y a des réflexions, des questions sur ce dont on vient de parler? L'autre fois, on a appris comme ça grâce à vous et que le thème de God Save the Queen avait été composé par Lully. Donc on en apprend des choses aux rencontres musicales. Voilà. Des questions? Non? C'est bien? Ça va comme ça? Ah, Eva?
Je suis allemande et je n'ai pas compris le mot pédale.
Ah, et alors, pédale, c'est ce qu'en allemand on appelle Orgelpunkt.
Voilà.
Voilà, c'est quand il y a une note qui ne bouge pas. Hein? Et c'est quelque chose que Bach utilise tout le temps, enfin que tous les compositeurs, mais il y a des compositeurs qui sont vraiment, pour qui c'est central. Et énormément d'œuvres de Bach commencent par une pédale, c'est-à-dire par une note qu'on pose et on fait passer des harmonies dessus. Hein. Les exemples au violoncelle ne manquent pas. Le sol reste. Et ça donne un souffle long. Ça donne une respiration large. Mi bémol reste. Là, on pose la dominante sur la pédale. Comme ça, ça nous pose, ça nous installe. Et c'est ce que. Et là, je disais que c'est une pédale, un Orgelpunkt, qui est à double visage, et ce qui permet de l'utiliser encore plus longtemps qu'une pédale normale. Oui, Claudine.
Je crois qu'on dit aussi en allemand une pédale monte, parce que point d'orgue, Orgelpunkt, est quand même point d'orgue, je crois.
Ah, enfin, alors, pédale monte.
Je connaissant en irlandais et en français.
Ouais, ouais.
Donc là, on dit aussi plutôt.
Dans les œuvres pour orgue, c'est un coup de pédale.
Alors, ça vient sans doute de l'orgue. Très bonne réflexion. Super.
À mon avis.
Et d'ailleurs, les deux se réfèrent à l'orgue, Orgelpunkt, et pédale, ça vient certainement du fait que on pose la pédale et après on...
Merci.
Super, ben, je vous en prie.
Vous avez écouté une conférence atelier sur le secteur à cordes numéro 2, opus 23 en sol majeur de Johannes Brahms, présenté passionnément par Jean-Guillaume Keras. On va écouter maintenant le œuvre entière par le musicien des Stuttgarter Solisten Albert Besant, Horst Neumann, violon Enrique Santiago, Michael Meyer Reinhardt, alto Rudolf Gleisner, Gottfried Hahn, violoncelle. Thank you.
Thank you. Thank you.
Vous avez écouté l'œuvre de Johannes Brahms, les Sextuor à cordes, numéro 2, opus 36 en sol majeur, par le musicien des Stuttgarter Solisten Albert Besan, Horst Neumann, violon, Enrique Santiago, Michael Meyer Reinhardt, alto, Rudolf Gleisner, Gottfried Hahn, violoncelle. Je remercie l'organisation des rencontres musicales en Haute-Provence et je remercie également Jean-Guyen Queyras pour cette conférence, cette très belle explication sur les Sextuor à cordes numéro 2, opus 36 en sol majeur de Johannes Brahms. Également pour les extraits de musique joués au violoncelle. C'est une émission de Radio Zanzine. Enregistrement, montage de son, Ute Müller.